Notre invité d'aujourd'hui est donc Ludovic Tournès. Alors, je crois que de tous les invités du séminaire, de la douzaine d'invités du séminaire de cette année, il est le seul que je ne connaissais pas du tout avant de l'inviter. Mais j'ai pensé qu'il était important d'avoir quelqu'un qui nous parlât de musique. J'ai dit quelques mots de Boulez tout à l'heure. J'avais beaucoup plus à dire, malheureusement, sur les conflits de la musique sérielle et de la musique concrète en cette année 65-66, etc. Bon, il y a évidemment un dossier important de musique qui engage Boulez, les polémiques avec Lévi-Strauss, puisque nous n'avons pas oublié qu'au début de... Enfin, du premier volume des Mythologiques, il y a un long passage contre la musique sérielle et contre la musique concrète. Et j'évoquais tout à l'heure la publication des relevés d'apprentis de Boulez au début de 1966 au Seuil, publié exactement en même temps au Seuil, il y a le grand livre de Pierre Schaeffer, qui est le traité de musique concrète. Bon, mais on va laisser de côté tout cela et ces polémiques sur cette musique-là. Il me semblait qu'il était important d'aborder la musique de jazz ou aussi la musique populaire, ces autres formes de musique. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai fait allusion à un certain nombre de ces chanteurs de l'époque, notamment lorsqu'on a vu masculin, féminin. En tout cas, j'ai invité Ludovic Tournès, qui est professeur à l'université Paris-Ouest, c'est-à-dire Nanterre, et il a une série de centres d'intérêt en histoire, en politique internationale, en histoire des organisations internationales, mais ce qui m'intéressait, c'était l'aspect histoire de la musique, et ce qui m'avait arrêté, c'est un livre de lui qui est intitulé « New Orleans sur scène, histoire du jazz en France ». Il me semble que c'est un moment important, enfin je crois que c'est un moment important. Mon intuition, c'est pas un dossier que j'ai vraiment ouvert, c'est que 1965-1966, c'est une année importante pour le jazz en France. Au fond, je ne sais pas si ça va être vérifié dans votre propos, mais à la frontière du bebop et du free jazz. Bon, il y a un certain nombre de grands concerts de jazz à Paris durant cette année-là. D'ailleurs, il me semble que lorsque Gérard Genette est venu nous parler, il a évoqué un concert de Stan Getz, auquel c'était pour lui une grande date de 66, c'était ce concert. Il y a donc un sujet important que la musique, et c'est pourquoi je vous ai demandé de venir. Votre titre est très joli, 1966, année jazzistique, ce qui a certains échos pour les uns et les autres. À vous, la parole.
Merci. Oui, donc moi je vais vous parler un petit peu de musique aujourd'hui, mais de musique en historien, hein, puisqu'effectivement c'est ma boutique. Et en fait, c'est un sujet qui était un peu ancien pour moi, puisque ça remonte à ma thèse de doctorat, puisqu'après j'ai travaillé sur pas mal d'autres choses. Mais après tout, c'est toujours plaisant de revenir sur les lieux du crime, si je puis dire, d'autant plus que je suis toujours amateur de jazz, même si je ne travaille plus dessus en tant qu'historien. Parler de musique, mais on est évidemment loin ici de la musique officielle, hein, et du coup il y a un contrepoint intéressant avec d'ailleurs ce dont il a été question tout à l'heure à propos de Malraux. Je dis tout de suite qu'effectivement votre intuition est justifiée, on y reviendra tout à l'heure. Et peut-être je vous dois une ou deux explications à propos du titre, où il y a année jazzistique, qui était en fait issu des quelques échanges par mail que nous avons eus avec Antoine Compagnou. Il m'avait suggéré d'évoquer un petit peu Gainsbourg, donc du coup j'ai repris la balle au bon, et 66 année jazzistique était le titre qui s'est imposé. Cela dit, je vais vous décevoir un petit peu, puisque ça sera pratiquement le seul élément un peu croustillant, je dirais, de mon intervention, au sens où je n'ai rien pour faire concurrence, ni illustration sonore, ni visuelle, pour faire concurrence à la scène des vents, là, dont on a vu tout à l'heure. Donc je suis désolé, on va faire avec, enfin, ou plutôt sans. Donc 66 années jazzistiques. Alors je ne vais pas faire un panorama détaillé en fait du jazz en 66. Ce que je vais plutôt tenter de faire, c'est replacer un petit peu ce moment hein, dans des phénomènes de long terme qui débordent à la fois en amont et en aval, ce qui est, je dirais, en accord avec ma démarche d'historien. Donc l'idée étant de prendre cette année 65-66, ce moment. Enfin, comme un moment d'un processus, je dirais, de plus long terme. Et en fait, en mettant l'accent sur un processus double, puisqu'effectivement, ce moment du milieu des années 60, du point de vue de l'histoire du jazz, est marqué par, je dirais, un double mouvement. Il y a à la fois un processus de long terme d'implantation du jazz en France qui a en fait commencé en 1917 et qui se poursuit en fait, sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, un processus plus large, je dirais, de métissage musical généralisé qui s'accélère à partir des années 50 et dont le jazz est partie prenante. Et ce processus de métissage qui témoigne finalement d'une certaine remise en cause des catégories traditionnelles du discours esthétique et en particulier de la frontière entre le savant et le populaire, hein, et dont on voit un certain nombre de signes dans l'histoire du jazz, à la fois en France et dans d'autres pays, mais là je me concentrerai évidemment plus sur ce qui se passe en France. Et donc l'intérêt en fait, du cas du jazz dans ce milieu des années 60, hein, c'est un moment où on a cette musique américaine qui commence à être reconnue comme une musique classique en, fait, en France, et en même temps où elle participe d'un certain nombre d'éléments, de symptômes qui témoignent finalement d'une reconfiguration du paysage culturel. Et donc il y a à la fois un double mouvement d'intégration, je dirais, au sein du paysage culturel français, et en même temps une remise en cause d'un certain nombre de frontières sur lesquelles fonctionne ce paysage, et en particulier les frontières savant-populaire. Alors, est-ce que c'est un signe de l'entrée dans la culture postmoderne? Je veux dire que je ne suis pas compétent pour répondre à cette question, mais enfin, c'est une question que j'en profiterai pour poser à Antoine Compagnon, peut-être qu'on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. En tout cas, je donnerai quelques éléments dans ce sens là au cours de ma présentation. Donc, en fait, je vais présenter trois points par rapport à ce dont je voulais parler aujourd'hui. Trois parties, mais pas trois sous-parties d'ailleurs. Je me suis limité aux premières grandes subdivisions rhétoriques. En tout cas, trois phénomènes dont je voudrais parler. Le premier, qui est ce phénomène de légitimation qui, effectivement, arrive bien à maturité en ce milieu des années 60. Et puis le deuxième phénomène qui est celui du métissage et le troisième qui est celui de cette reconfiguration des frontières du discours esthétique et en particulier, je disais tout à l'heure, de la frontière savant-populaire. Donc, en ce qui concerne le processus de légitimation, je disais tout à l'heure hein, qu'effectivement, au début des années 60, le jazz est en fait en train de devenir une musique classique au sens de musique reconnue, hein, qui a conquis une légitimité dans le paysage culturel français. Alors, c'est vrai que là, il faut remonter un petit peu en arrière pour comprendre tout ça. On a en fait, avec l'histoire du jazz en France, un processus de long terme, puisque finalement, c'est une musique qui a commencé à se faire connaître hein, dès 1917, enfin, qui est arrivée finalement avec les premiers soldats américains en 1917, qui est restée relativement marginale dans les années 30, et puis dont le succès a explosé après 45, en particulier la grande période de popularisation du jazz, qui est, disons, les années 48-60. Donc après 1960, on a une popularité qui décline, je dirais, et en particulier le jazz est concurrencé par le yéyé, puis ensuite par le rock, mais en même temps, une implantation durable dans le paysage culturel, et au milieu des années 60, cette intégration est tout à fait une réalité. Et en fait, ce succès, cette intégration, elle est largement due à l'action volontariste d'un noyau d'amateurs de jazz qui finalement a commencé à œuvrer dès les années 30 et surtout après 1945 en déployant finalement toute une gamme d'activités depuis la création de clubs, de revues, organisation de concerts, publication de livres, de création de compagnies discographiques également et multiplication d'émissions radio ou de rubriques dans la presse. Enfin bref, qui ont mis, je dirais, en place une entreprise tous azimuts à la fois de diffusion et de reconnaissance et de légitimation du jazz, en particulier aussi avec l'élaboration d'un discours critique, hein, d'une critique de jazz qui est en fait pratiquement devenue au cours des années 50 un genre littéraire à part entière. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis évidemment, ce processus a été largement facilité par la venue après 45 de très nombreux musiciens en Europe, d'une manière générale, et en France en particulier. Des musiciens qui étaient d'ailleurs, enfin qui sont venus en Europe finalement parce que la situation économique aux États-Unis était très mauvaise et en fait le succès du jazz et la reconnaissance du jazz est largement due à l'Europe pas seulement à la France, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, il y a eu un flux continu, je dirais, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, de le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en France, qui se compte en plusieurs centaines de musiciens venus à partir de la fin des années 40. Bon, il y a toute une série de gens extrêmement connus, des gens comme Kenny Clarke, par exemple, qui était un des batteurs historiques du bebop. Et puis, évidemment, il y a le cas de Sidney Bechet, hein, qui a fait une très grande carrière dans les 10 dernières années de sa vie, entre 49 et 59. Et ça, c'est un flux qui se poursuit au cours des années 60, mais avec une autre génération de musiciens, peut-être un petit peu moins connus. Mais on a un certain nombre d'entre eux, non seulement qui viennent en France, mais surtout qui séjournent longtemps. Ça, je crois que c'est extrêmement important, parce qu'une chose sont les vedettes qui viennent deux ou trois jours, qui font quelques concerts, et puis autre chose sont des musiciens qui restent plusieurs mois, voire plusieurs années, voire parfois s'installent définitivement. Hein. Et là, il y a un certain nombre d'entre eux qui, à partir du milieu des années 60, le font. Je pense en particulier à des gens comme Don Cherry ou Steve Lacy, qui sont des musiciens tout à fait importants, précisément, dans le mouvement free jazz. Et puis, il y a également une chose à prendre en compte dans ce processus d'implantation du jazz en France, qui est l'émergence d'un noyau de musiciens français, hein, qui a commencé très timidement dans les années 30 et qui s'est confirmé dans les années 50, et qui s'implante vraiment durablement dans les années 60, avec non seulement, je dirais, la confirmation et l'augmentation numérique de ce petit noyau, mais également sa professionnalisation. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein, des gens comme Pierre Michelot, des gens comme Daniel Humer, des gens comme Martial Solal, comme Eddy Louis, comme Jean-Luc Ponty, qui commence précisément à faire ses premières armes en public en 1965-66, enfin, qui commence à se faire connaître, je dirais. Toute une série de gens comme ça. Et donc, on arrive finalement au début des années 60 avec ce phénomène de légitimation qui est soutenu à la fois par un mouvement concret de flux de musiciens et par toute une série de structures qui ont été créées, et par, je disais tout à l'heure, ce discours de la critique de jazz qui finalement a martelé sans relâche depuis 25 ans le fait que le jazz était une musique spécifique avec ses propres règles et qu'elle constituait un art à part entière et non pas simplement une musique de nègre. Et là, il est clair qu'effectivement, à début des années 60, cette bataille a porté ses fruits avec effectivement un jazz qui est reconnu comme tel, et on voit bien au début des années 60 le processus d'institutionnalisation du jazz qui est une réalité, bon, sur laquelle je ne reviendrai pas en détail, ça serait un petit peu long, mais en tout cas un processus qui est tout à fait réel et qui est d'ailleurs favorisé aussi par la présence en France d'un certain nombre d'orchestres qui sont de plus en plus professionnels et dont certains d'ailleurs usent de la référence classique pour légitimer le jazz. Je pense en particulier au Modern Jazz Quartet qui a été très en vogue en France à la fin des années 50 et au début des années 60 et qui faisait des concerts à la salle Pleyel. Les musiciens étaient en smoking et en plus c'était le moment où le Modern Jazz Quartet mélangeait le jazz et le contrepoint et donc avec toute une référence classique qui était effectivement destinée là aussi à donner les attributs de la légitimité à cette musique. Donc on début des années 60, milieu des années 60, on en est là, une musique qui est devenue à peu près classique ou considérée à peu près comme telle. Bon. Cela dit, on a une situation paradoxale parce qu'on a un jazz qui est reconnu, mais en même temps, 64-65, on a un jazz qui est, dont le succès populaire a brutalement baissé. Hein, c'est-à-dire que la musique reste vraiment... Il y a eu un grand succès public jusque vers 63-64, et puis très très vite, ça décline. Bon, la musique est supplantée, c'est-à-dire par tout ce qui est le courant yéyé, puis bientôt la musique pop. Et en plus, elle est aussi bousculée de l'autre côté par les premières manifestations du phénomène free jazz. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous sur ce mi-temps des années 60, parce que finalement, le free jazz... c'est une nouvelle forme qui finalement remet en cause les structures musicales antérieures du jazz et qui revendique en particulier une autonomie radicale du jazz par rapport au canon de la musique occidentale, par rapport auquel, au contraire, la génération précédente s'était plutôt efforcée de coller. Hein. Et donc, on a ce nouveau courant qui bouscule les certitudes et qui précisément commence à arriver en France en 65-66. Hein. Bon. Comme vous savez sans doute, ces premières manifestations datent de 1960 aux États-Unis, mais dans l'immédiat, en France, on l'a assez peu entendu. En fait, c'est vraiment à partir de 65-66 qu'il y a les premiers concerts de musiciens de free jazz. Je pense en particulier à Ornette Coleman, à la Salle de la Mutualité, à des gens comme Don Cherry, Steve Lacy, Cecil Taylor, etc. Et en plus, cette arrivée d'une nouvelle génération de musiciens, elle est sanctionnée également par l'arrivée dans la presse spécialisée de jazz, en 66 précisément, d'une nouvelle génération de critiques qui va adopter un discours extrêmement différent de celui de leurs devanciers. Je pense en particulier à des gens comme Philippe Carle et Jean-Louis Comolli, qui arrivent à Jazz Magazine en 1966, et qui en fait vont se positionner de manière très très différente par rapport aux critiques de jazz de la génération précédente, dont les plus connus étaient André Oder et Lucien Malson. Deux critiques en fait, qui avaient développé l'idée que le jazz s'intégrait finalement à la civilisation occidentale, en utilisant ses propres références et en développant un processus d'esthétisation qui était finalement assez proche de celui de la musique classique. Et une des idées qui était développée par ces critiques de jazz est que finalement le jazz présentait un condensé en l'espace de 50-60 ans de deux siècles de musique européenne, plus que deux siècles, trois ou quatre siècles de musique européenne, avec finalement un passage de la polyphonie à la monodie accompagnée, et ensuite une période plus contemporaine avec une utilisation du système tonal jusqu'aux limites de ses possibilités. Tout ce parcours qui avait été fait par la musique occidentale depuis le XIVe siècle jusqu'au début du XXe, et le jazz faisait à peu près le même parcours entre 1900 et 1960. Bon, mais un discours qui était largement cantonné, je dirais, à la sphère esthétique. Or, ces nouveaux critiques de jazz qu'on voit dans les principales revues françaises, à Jazz Magazine et à Jazzot, finalement remettent en cause cette vision dans la mesure où ils s'appuient sur un type de référence complètement différent. Leur référence à eux, c'est le structuralisme, c'est la sémiologie, et finalement ils se basent là-dessus pour considérer que la critique de jazz de la génération précédente a finalement mythifié le jazz et qu'elle était tellement accrochée, était tellement obsédée par sa volonté de légitimer le jazz comme une musique originale et comme un art à part entière, que finalement elle avait complètement neutralisé la charge revendicative et subversive du jazz, et cette charge revendicative qui va être remise en avant par cette nouvelle génération de critiques à partir de ce moment-là. Et on a un discours extrêmement radical qui est développé par tous ces critiques à partir de ce moment-là. Radicalisation qui va d'ailleurs de pair au même moment avec la radicalisation des mouvements noirs aux États-Unis. Pour mémoire, 65, c'est les émeutes de Watts à Los Angeles. Et puis 66, c'est la date de création du Black Panther Party. Donc on a effectivement une nouvelle génération de critiques qui se situe dans une optique complètement différente de celle de vouloir légitimer le jazz en tant qu'art spécifique. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain des musiciens ? Bon, il y a les nouveaux développements du jazz qui se passent. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, entre 60 et 65, très peu de musiciens de free se sont fait entendre en France. Eric Dolphy vit en 1961, mais enfin, c'est surtout à partir de 65-66 qu'on a vraiment le mouvement qui est lancé. 65, c'est la publication en France de Free Jazz, qui est vraiment l'enregistrement historique du Free Jazz, un disque d'Ornette Coleman avec un double quartet. Et dans la foulée de la publication de ce disque, Ornette Coleman passe à Paris en novembre 65. Bon. Et donc là, on a un certain nombre de concerts, effectivement, au cours de ces années 65-66. Et puis, on a également les premiers musiciens français qui commencent à s'approprier cette nouvelle optique. Et là, ce sont des gens évidemment beaucoup moins connus. Enfin, pas tous. Certains sont peu connus, mais d'autres le sont, vous allez voir. Bon, François Tusk, probablement, peut-être très peu d'entre vous le connaissent, mais c'est le pionnier, un des tout premiers pionniers du free jazz en France. Bernard Guérin, Jeff Gilson, et puis là on arrive dans des gens un peu plus connus, Jean-François Génie Clark, contrebassiste, Aldo Romano, batteur, et puis Michel Portal, qui lui n'est plus à présenter. Et en fait, le premier orchestre à proprement parler de free jazz en France est formé en 1965 par Jeff Gilson. Donc en fait, ce sont des musiciens qui ont une toute autre expérience du jazz que ceux de la génération précédente, des années 50. Qui sont finalement beaucoup moins marqués par le modèle américain et qui vont plus facilement explorer d'autres territoires. Dans la mesure où, si vous voulez, la génération des musiciens français des années 50 était très très influencée par le modèle et par les maîtres américains, même si quelques-uns d'entre eux s'en détachaient déjà. Je pense en particulier à Martial Solal, qui finalement, dès le milieu des années 50, a construit son propre itinéraire esthétique. Mais enfin, grosso modo, la grande partie des musiciens français des années 50 étaient dans un rapport de maître à élève par rapport aux musiciens américains et au jazz américain. Or, la nouvelle génération qui arrive là, qui commence à faire ses premières armes dans les années 65-66, ce mi-temps des années 60, se situe dans une optique tout à fait différente et va s'émanciper. Et c'est vrai que le milieu des années 60 est en ça une période charnière dans l'histoire du jazz en France, parce que c'est le moment où l'expérience française du jazz creuse son propre chemin. Et là, effectivement, je dirais que la problématique de l'importation d'un jazz américain devient trop schématique à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus des musiciens américains qui arrivent avec un modèle, je dirais, tout prêt à reproduire et que les musiciens français s'attacheraient à essayer de reproduire, ce qui était le cas un petit peu dans les années 50. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les musiciens américains qui viennent en France à partir de ce moment-là, et je pense en particulier à Don Cherry, ce sont des gens qui sont en pleine recherche esthétique et qui finalement vont trouver en Europe et par la rencontre avec les musiciens européens toute une série de voies musicales à explorer. Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement des musiciens américains qui arrivent en pleine possession de leur art et qui présentent au public français des choses achevées, mais des musiciens eux-mêmes qui sont en quête et qui vont finalement partager leurs expériences et leurs tâtonnements avec les musiciens européens, français évidemment, mais aussi suédois, danois, allemands, etc. Et c'est vrai que quelqu'un comme Don Cherry, finalement, passe le plus clair de son année 65-66 en France, et finalement, il va jouer énormément avec toute cette première génération de musiciens français de free jazz. Et on voit tout à fait le côté charnière de ce moment-là, parce que Don Cherry est un passeur très très important dans le domaine du free jazz entre les États-Unis et la France, mais finalement, il joue un rôle très très différent de celui qui avait pu jouer 15 ans avant lui, des gens comme Kenny Clarke ou des gens comme Sidney Bechet, qui avaient joué le rôle de passeur auprès du grand public et des musiciens dans les années 50, mais qui finalement étaient des gens qui avaient cessé toute recherche esthétique et s'était installé dans, entre guillemets, la routine d'une carrière et d'une vedette. Bon, Kenny Clarke était devenu musicien de studio, et puis Sidney Bechet était devenu une grande vedette qui avait assuré la popularité du style Nouvelle-Orléans en France, mais qui avait cessé, je dirais, de travailler dans une optique de recherche esthétique. Alors qu'avec des gens comme Don Cherry ou Steve Lacy, on a une optique tout à fait différente sur des gens qui sont en train de rechercher leur propre univers esthétique et dont les expériences qui vont entreprendre avec des musiciens français en particulier au cours de ce milieu des années 60, nourrissent finalement la suite de leur parcours quand ils reviennent après aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Voilà, donc ça, c'est ce moment 65, 66, 67 est tout à fait important de ce point de vue-là pour ce qui concerne, je dirais, l'exploration d'un nouvel univers esthétique par les musiciens et qui se fait finalement non pas sous la forme de l'importation d'un modèle américain, mais plus sous la forme d'une coproduction qui associe, pas tout à fait à parité, mais quand même de plus en plus, des musiciens américains et des musiciens français. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, qui découle un peu du premier, c'est que finalement, ce processus de structuration du milieu du jazz dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis ce processus de légitimation du jazz, et ensuite les polémiques qui vont suivre l'affirmation d'une nouvelle génération de critiques beaucoup plus politisée que la précédente et beaucoup plus radicale dans ses discours, finalement, tous ces phénomènes-là masquent finalement un autre phénomène important dans le jazz au milieu des années 60, qui est celui d'un phénomène de métissage généralisé. Ça, je crois que qui n'est pas seulement un phénomène français, d'ailleurs. En France, si vous voulez, en gros, jusqu'à ce moment-là, on a une critique de jazz qui a pensé avant tout en termes de jazz en voulant le légitimer, et qui a pensé avant tout au jazz en termes de musique noire. L'idée, c'était de légitimer le jazz en tant que musique afro-américaine. Et ce faisant, finalement, elle a mis de côté toute une série d'autres phénomènes dans le jazz qui se manifestent de manière de plus en plus visible, je dirais, à partir du début des années 60. Bon, d'ailleurs, que le jazz soit une musique métissée, c'est finalement pratiquement une évidence depuis le début, sauf que c'est une dimension qui avait été finalement mise complètement au second plan par la critique de jazz. Je veux dire que le jazz comme musique métissée, dès le début à la Nouvelle-Orléans, on a un élément noir américain qui est important dans le jazz, mais qui n'est pas le seul. Il y a des multiples influences culturelles qui fait que le jazz est dès le départ une musique de mélange à peu près complète et dont finalement, tout au cours des années 30, 40, 50, ne va pas cesser finalement d'avaler des influences venues d'à peu près partout, que ce soit des Caraïbes avec la musique portoricaine, cubaine, la calypso, les musiques brésiliennes, il y a la vogue de l'afro-jazz dès la fin des années 50, la bossa nova début des années 60, les musiques indiennes aussi à partir du milieu des années 60. Enfin bref, on a un melting pot à peu près constant. Et en plus, ce phénomène de melting pot est, je dirais, accéléré par l'arrivée à maturité dans les années 50 d'une industrie du disque qui devient de plus en plus mondialisée et qui devient une industrie de masse. Et le disque est en fait un laboratoire absolument fondamental du métissage musical, à la fois parce qu'il permet au sein, dans les séances de studio, des rencontres multiples entre musiciens de tous origines, et parce qu'il est un amplificateur formidable du fait de la diffusion extrêmement massive du disque. Donc on entre finalement, à partir du début des années 60, de plus en plus dans une logique de world music. Hein, ce terme date finalement de la fin des années 80, mais la réalité est présente bien avant, et il est clair que le jazz en est un des laboratoires. Alors la France, là-dedans, n'est qu'un phénomène, je dirais, localisé d'un processus plus global, mais on a une problématique qui est tout à fait clair là aussi en France. Simplement, elle est moins visible du fait de, encore une fois, la polarisation de la problématique du milieu du jazz, à la fois des amateurs et des critiques, sur finalement ces débats sur la légitimation, mais qui précisément, à partir du milieu des années 60, commence à passer en second plan, parce que la légitimation du jazz est un phénomène à peu près acquis. Mais quand même, il y a cette relative ignorance de ces phénomènes de métissage. Bon, par exemple, quand la bossa nova arrive en France en 62-63, la critique tord le nez sur Stan Getz et sur ces disques-là. Hein. Non seulement elle tord le nez là-dessus, mais elle prête pas non plus tellement attention à toute une série de musiques de variété où les jazzmen sont très présents et qui constituent en fait un phénomène important dans la dissémination, je dirais, du jazz dans le paysage culturel français. Or, finalement, ce qu'on constate, hein, quand on regarde précisément ce que font les musiciens français au début des années 60, et notamment cette nouvelle génération qui arrive comme ça à partir de 64, 65, 66, c'est qu'on a une génération de musiciens qui multiplie en fait des expériences musicales en profitant précisément de l'explosion des structures musicales traditionnelles du jazz qui est permise par le mouvement free jazz qui remet en cause tout ça. Et donc, ça c'est très intéressant parce qu'on voit bien que finalement, à partir du moment où ces musiciens français de la période de la génération free ne se sentent plus obligés de recopier un modèle musical américain, finalement, ils vont pouvoir aller chercher partout des influences musicales multiples. Hein, et c'est vrai que les gens que j'ai cités tout à l'heure, les Portal, les Jenny Clark, les Henri Texier, les François Tusk, les François Genot, se lancent dans toute une série d'expériences à partir de ce moment-là, dont témoignent les enregistrements de cette époque, qui mêlent jazz, musique indienne, musique traditionnelle, musique latine, malgache, africaine, japonaise, etc. Enfin, on a des mélanges tous azimuts et assez systématiques, dans lequel précisément l'arrivée du free jazz comme élément libérateur, je dirais, a joué un rôle d'accélérateur tout à fait manifeste. Donc ça, c'est un phénomène de métissage, je dirais, qui se voit très bien au sein du petit milieu des musiciens de jazz, mais c'est quelque chose qui irrigue aussi d'ailleurs la variété. Et là, effectivement, je voudrais dire quelques mots sur Gainsbourg et Nougaro, en particulier Serge Gainsbourg, parce qu'il est lié évidemment à notre histoire du jazz en France. Comme vous savez sans doute, Gainsbourg a une filiation évidente avec Boris Vian, hein, qui est la personne qui a convaincu Gainsbourg de se lancer dans la musique et dans la chanson. Bon, Boris Vian, ça a été un passeur tout à fait important. Je ne vais pas faire un topo entier sur lui, ça serait trop long, mais il a joué le rôle de passeur extrêmement important dans le milieu du jazz français dans les années 50. Musicien et animateur de soirées de Saint-Germain-des-Prés, bien sûr, mais aussi critique, chanteur, et puis directeur artistique chez Barclay entre 1957 et 59, donc propagandiste infatigable du jazz, modèle pour Gainsbourg. Serge Gainsbourg, qui en fait, quand il commence à publier ses premiers albums, 58-59, est quelqu'un qui baigne dans la culture du jazz, et ses premiers albums sont des albums de jazz chanté. Et en fait, toute la première séquence de Gainsbourg, entre 58-63, est marquée par le jazz. Et puis ensuite, il va explorer finalement, à partir de là, toute une série d'univers musicaux, hein, et entrer dans une logique de patchwork qui finalement marque toute la suite de sa carrière jusqu'à la fin. À partir de 64, précisément, il y a une charnière dans l'itinéraire de Gainsbourg qui finalement se rend compte qu'avec le jazz, il n'aura jamais de succès. Et en particulier son album Gainsbourg Confidentiel, qui a eu effectivement un succès confidentiel en 63, où finalement Gainsbourg chante avec deux musiciens de jazz, un guitariste hongrois qui s'appelle Elek Baksik, que vous connaissez peut-être, et puis le contrebassiste Michel Gaudry, un disque extrêmement confidentiel, qui finalement convainc Gainsbourg qu'il faut faire un petit peu autre chose. Mais même si Gainsbourg va explorer d'autres univers, il va toujours rester fidèle un petit peu à ça. Et en tout cas, à partir de 1964, il commence à explorer toute une série d'univers. Et notamment, son album suivant, Gainsbourg Percussion, est extrêmement intéressant parce que là, on entre vraiment dans la logique du patchwork et du métissage complet. C'est un album où les couleurs africaines dominent complètement, mais qui est fait avec un accompagnement de musiciens de jazz. On retrouve les Portals, on retrouve Lady Lewis, on retrouve Christian Garros, tous ces gens-là, qui d'ailleurs se retrouvent dans une bonne partie des enregistrements de variété de cette époque-là, puisque le free jazz, par définition, ça rapporte peu. Donc, il faut bien gagner sa vie. Et donc, cet album est extrêmement intéressant parce que, d'abord, par sa couleur africaine généralisée, et d'ailleurs, on y retrouve, en fait, dans cet album Gainsbourg Percussion, trois titres qui sont repris d'un percussionniste africain qui s'appelle Babatunde Olatunji. Alors, Babatunde Olatunji, sans doute certains d'entre vous le connaissent, mais c'est quelqu'un d'extrêmement important parce que, finalement, c'est lui qui a, finalement, imposé la musique africaine sur la scène jazz américaine à la toute fin des années 50, qui a été repris très vite par toute une série de musiciens de jazz, et qui, effectivement, est considéré comme un des pères de la world music. Et c'est très intéressant de voir à quel point Gainsbourg, effectivement, se réapproprie complètement cet univers-là pour aller dans cette même direction-là. Donc on voit bien, là aussi, qu'on est dans cette logique, finalement. Et donc, il y a plusieurs titres qui sont des reprises directes de Babatunde Olatunji. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres titres avec des couleurs plus ou moins africaines. Je pense en particulier à Couleur Café, ça c'est connu. Il y a également un titre qui est une samba, qui s'appelle Les Sambassadeurs. Là, c'est le goût de Gainsbourg pour les jeux de mots qui se manifeste. Et puis, il y a deux titres jazz en particulier, qui s'appelle Quand mon 635 me fait les yeux doux. Bon, donc là, on est vraiment dans un album qui est un patchwork complet et qui, finalement, annonce ce que fait Gainsbourg à partir de ce moment-là. Et les disques suivants des années 65, 66, 67 sont dans cette logique-là, avec parfois des couleurs musicales peut-être différentes. Mais finalement, la démarche est un petit peu la même. Pour l'album suivant qui est publié en 65, là, va avoir la couleur typiquement jazz est plutôt mise en sourdine, mais elle est quand même toujours présente, mais plutôt sous sa forme de rhythm and blues. Et là, on a toute une série de titres dans cette optique-là. Bon, ce phénomène que je viens de décrire avec Gainsbourg, on a exactement le même avec un chanteur comme Claude Nougaro, qui là aussi a une influence baignée par le jazz, qui fait ses premiers enregistrements aussi à la fin des années 50, et qui rentre exactement aussi à partir de ce moment, 65-66, dans cette logique de mélange tous azimuts. Et c'est précisément son disque de 66 qui sort cette année-là chez Philips, où il y a à la fois des chansons qui sont des reprises de jazz. Bon, je pense en particulier à la chanson Armstrong, où là aussi toujours accompagné par des musiciens de jazz. Mais dans le même disque, il y a Bidonville, qui est une chanson inspirée des musiques brésiliennes. Et puis il y a également L'amour sorcier, sur des rythmes africains. Donc ça, cette logique de patchwork, on la retrouve complètement chez Nougaro. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve à des degrés divers dans toute la variété de ces années 65-66, où d'ailleurs les musiciens de jazz sont extrêmement nombreux. Je veux dire qu'au mi-temps des années 60, que ce soit Barbara, Jeanne Moreau, Sacha Distel, Juliette Gréco, tous ces gens-là se font accompagner par des musiciens de jazz, et on voit bien comme la façon dont ils peuvent être passeurs comme ça, de ces mélanges multiples qu'on voit dans ces fonds sonores présents derrière les chanteurs au cours de cette période-là. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui est assez omniprésent dans cette année 65-66 chez tous ces chanteurs, c'est effectivement Elec Baksik, le guitariste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui accompagnait Gainsbourg en 63. Donc voilà, cette logique de world music, elle devient vraiment de plus en plus visible, je dirais, à la fois chez les musiciens de jazz et puis dans la variété qui a été de plus en plus imprégnée de jazz depuis les années 50, via en particulier la participation des musiciens de jazz à toutes ces séances de studio où finalement ils accompagnent les vedettes de la variété. Alors, ce phénomène en fait de métissage, il ouvre finalement sur une autre dimension, à mon avis extrêmement importante, qui se cristallise, qui commence à se cristalliser au milieu des années 60, qui est cette remise en cause dont je parlais tout à l'heure des frontières entre savants et populaires. Finalement, c'est le troisième point que je voulais évoquer. Finalement, bon, la problématique du jazz dans les années 20-50, disons, en France. Pas seulement en France d'ailleurs, mais surtout en France, c'était finalement de se faire reconnaître comme une musique à part entière et puis de se débarrasser du statut de musique de nègre pour être reconnu comme un art à part entière. Bon. À partir du début des années 60, la configuration change dans la mesure où le jazz, pour ce qui est de la France, a conquis finalement sa légitimité, a conquis son autonomie musicale, et ça on le voit bien à travers les itinéraires des musiciens français qui précisément se dégagent du modèle américain. Et en fait, on a un jazz qui a conquis son autonomie musicale et qui devient finalement un peu un acteur dans la reconfiguration des catégories du discours esthétique. Et c'est extrêmement intéressant de voir finalement les emprunts dans le domaine du jazz finalement à des univers esthétiques qui étaient considérés auparavant comme relevant de registres extrêmement différents, et notamment registre savant, registre populaire. Et c'est très intéressant de voir à quel point le jazz emprunte aux deux, et aux deux en même temps et de façon indifférenciée. Hein, et finalement, de ce point de vue-là, on peut considérer le jazz de cette époque-là comme un des laboratoires d'une reconfiguration des catégories esthétiques. Alors, il y a pas mal de signes de cette interpénétration des catégories savants-populaires au cours de ce début des années 60. Premier signe intéressant, c'est dans la formation des musiciens. En fait, les années 50 ont été celles d'une progressive professionnalisation des musiciens français. Je veux dire par là qu'on avait affaire à des gens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient avant tout des autodidactes et qui finalement essayaient de faire reconnaître à la fois la légitimité du jazz comme art, mais qui essayaient aussi de faire reconnaître leur légitimité en tant que professionnels de la musique, en particulier face à leurs collègues classiques, hein, qui avaient tendance un petit peu à les mépriser. Donc là, bon, il y aurait toute une série de choses à dire sur la façon dont la professionnalisation du jazz s'inscrit dans l'histoire des professions, mais ça serait un petit peu long à développer ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien au cours des années 50 comment les musiciens de jazz français finalement acquièrent un certain professionnalisme à coup de séances de studio et à coup de reconversion, de formation un peu sur le tard, et finalement conquièrent une certaine reconnaissance de la part de leurs collègues musiciens classiques. Mais à partir du milieu des années 60, la nouvelle génération de musiciens qui arrive sur la scène a finalement un parcours complètement différent et qui fonctionne tout à fait autrement. Quand on regarde des gens comme Bernard Lubat, quand on regarde des gens comme Jean-François Jenny Clark, quand on regarde des gens comme Michel Portal, ce sont tous des gens qui, finalement, ne sont pas des musiciens classiques venus au jazz, ni des musiciens de jazz ayant appris la musique classique ou la technique classique sur le tard, mais on a des gens qui ont fait en même temps les deux formations, à parité et sans aucun problème, sans que ça leur pose aucun problème, je veux dire particulier, sans se demander si l'un était légitime, l'autre pas, si l'un était une bonne musique, l'autre pas, etc. Et finalement, on a des gens qui arrivent à partir du milieu des années 60 avec à la fois un bagage théorique et un bagage instrumental parfait, enfin en tout cas de très haut niveau en termes de technique classique, et qui se sont en même temps formés à l'improvisation, qui est un univers totalement inconnu de leurs collègues classiques à cette époque-là, enfin, un univers qui commence à être un petit peu à revenir chez les musiciens classiques, mais par un autre biais qui est celui en fait du revival de la musique baroque. Mais en tout cas, l'improvisation est un domaine qui est terra incognita pour la plupart des interprètes classiques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette nouvelle génération de musiciens de jazz finalement tient les deux bouts entre une formation classique, une formation de jazz, et également en fait une formation en musique contemporaine. Enfin, ou plutôt, c'est cette double formation d'un musicien improvisateur et de technicien classique qui va faire que les interprètes de cette génération free jazz vont être extrêmement prisés par les compositeurs de musique contemporaine, parce que les compositions de musique contemporaine ont besoin à la fois de gens qui ont une technique impeccable, mais aussi un sens de la liberté que n'ont absolument pas la plupart des instrumentistes classiques. Et ce qui fait que, finalement, les gens que je viens de citer vont irriguer les trois circuits du jazz, des clubs de jazz parisiens, des salles de concert classiques, mais également des créations de musique contemporaine qui se déroulent prioritairement, mais pas seulement au domaine musical, dont on a parlé tout à l'heure. Et en tout cas, effectivement, cette génération-là manie finalement de la même manière le jazz, la musique classique et la musique contemporaine, et ça ne lui pose aucun problème. Donc on a vraiment cette interpénétration qui est forte. Et on a également une multiplication des œuvres qui multiplient ces références et ces emprunts multiples à toute une série d'univers, jazz, variété, musique classique, contemporaine. Ça se voit par exemple avec des musiciens qui vont mêler la variété et le jazz. Bon, je pense en particulier à Gainsbourg, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ça se voit également du côté de musiciens de jazz qui vont emprunter fortement au classique. Je pense en particulier aux Swingle Singers, le groupe vocal, ce groupe français, les Swingle Singers, avec en particulier Eddie Louise, Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand, et qui commence en fait à exercer, qui commence à ses premiers enregistrements au début des années 60, et dont le disque Vendôme paraît en 1966, qui est un mélange très fort entre le jazz et la musique baroque, et en particulier adaptation de toute une série essais de mélange entre le jazz et le contrepoint. Et là, je parlais tout à l'heure du revival de la musique baroque, c'est tout à fait intéressant parce que finalement, ces expériences de musiciens de jazz qui expérimentent là aussi la musique baroque va de pair avec ce revival de la musique baroque qui a commencé dans les années 50 et qui se poursuit en fait dans les années 60. Et d'une certaine façon, le jazz a été là aussi un des éléments sans doute de son retour en grâce, en particulier parce que finalement la musique baroque a réhabilité quelque chose qui avait complètement disparu de la musique classique, ou en tout cas qui avait été au second plan de la musique classique depuis le début du 19e siècle, qui était le rythme, et en particulier le rythme continu. Et là-dessus, la rencontre entre jazz et musique baroque s'est faite, j'ai dit, quasi naturellement, et des gens comme les Swingle Singers l'exploitent à fond, mais des gens comme Jacques Loussier aussi le font, Jacques Loussier qui effectivement là aussi publie un certain nombre de disques entre la fin des années 50 et le début des années 60. Voilà, il y a ces emprunts classiques, et puis il y a évidemment des emprunts aussi à l'univers contemporain. Là, je pense en particulier à l'itinéraire de quelqu'un comme André Oder. André Oder, qui est à la fois un des critiques de jazz dominants de la période des années 50, mais qui est aussi un compositeur, qui lui s'est formé en fait dans les années 50, à la fois en tant que. Il s'est formé au Conservatoire de Paris, et en même temps en tant que musicien de jazz, mais je dirais qu'il était tout seul à cette époque-là, alors que dans les années 60, la nouvelle génération, je dirais, c'est beaucoup plus naturel pour elle. Mais André Oder a développé à partir des années 50 un itinéraire de compositeur de jazz, enfin, c'est un terme qu'il a lui-même donné, il est d'ailleurs. C'est une catégorie pour lui tout seul, en fait, puisqu'il est pratiquement le seul à se reconnaître dans ce terme-là, compositeur de jazz. Et précisément en 1966, il compose et publie son œuvre maîtresse, qui est Anna Livia Plurabel, qui est en fait une cantate de jazz utilisant les ressources sonores de la musique, du jazz bien évidemment, mais aussi les ressources sonores de la musique contemporaine. Et donc il y a un mélange là chez Oder entre l'univers du jazz, l'univers du classique et l'univers du contemporain, et qui en plus, une œuvre qui est fondée, qui est une référence entière à Finnegan's Wake de Joyce, et donc c'est vraiment l'œuvre maîtresse d'André Oder, et pratiquement une de ses dernières, puisqu'après finalement André Oder va abandonner la composition et se diriger vers la littérature. Bon, et effectivement, ces emprunts contemporains, donc j'y faisais allusion tout à l'heure, du côté des interprètes, on le voit aussi complètement dans la mesure où tous les musiciens dont j'ai parlé non seulement multiplient les collaborations à ce moment-là avec les musiciens contemporains, avec Stockhausen, avec Ligeti, avec Boulez, avec Kagel, etc. Ces expériences-là, acquises dans les créations d'œuvres contemporaines, ils les réinvestissent également dans leur travail de jazzmen. Et donc ce compagnonnage finalement avec la musique contemporaine se retrouve dans leur expérience musicale et va donner lieu à partir de la fin des années 60 à ce qu'on a commencé à appeler non plus le jazz européen, non plus le free jazz français, mais le label musiques improvisées européennes, qui sont finalement pour partie issues de ce compagnonnage entre free jazz, musique contemporaine, et puis aussi d'une manière générale musique du monde. Là, il y a vraiment toute une série de choses à dire sur ce phénomène. Alors du coup, en fait, cette espèce d'interpénétration des catégories esthétiques conduit finalement à un brouillage, parce que dans ce cadre-là, où est-ce que se situe le jazz ? Du côté du savant, du populaire ? Est-ce que c'est la plus populaire des musiques savantes, la plus savante des musiques populaires ? J'en sais rien, mais du coup, quand on voit tout ça, on se demande qu'est-ce que c'est que la musique populaire et qu'est-ce que c'est que la musique savante. En tout cas, c'est des questionnements assez typiques de ce moment-là. Et d'ailleurs, ce brouillage en fait de ces catégories, on le retrouve bien dans le discours critique de ce mi-temps des années 60, dans la mesure où finalement ce qui intéresse les critiques de jazz à partir de ce moment-là, c'est plus tellement la dimension proprement esthétique du jazz, savoir si effectivement on a une musique populaire qui a connu un processus d'esthétisation qui maintenant la rapproche de la musique classique, et s'il doit être reconnu à l'égal de la musique classique, de la musique savante. Au contraire, finalement, les critiques de cette période-là finalement, remettent en cause tout ce qui concerne l'esthétisme, le formalisme, et finalement, de facto, s'écartent des problèmes de catégorisation et des problèmes de savoir si le jazz est une musique savante ou une musique populaire. Et donc, finalement, à partir de ce moment-là, le discours critique sur les musiques de jazz en France donne lieu finalement à un autre, enfin, part sur une autre logique qui est celui du mélange généralisé plus que de l'accession du jazz à une dignité esthétique. Bon, et puis, je terminerai très rapidement en disant que finalement, cette remise en cause aussi des catégories esthétiques, elle va de pair en fait avec l'esthétique du collage, qui devient finalement une constante de la création musicale à ce moment-là. Et elle en devient une constante en particulier parce qu'elle a maintenant son propre instrument qui permet aux musiciens de faire ça, et je veux parler du studio d'enregistrement. Là, il y aurait toute une série de choses à dire là-dessus, je ne vais pas entrer là-dedans, ça serait trop long, mais le studio d'enregistrement devient, à partir de ce moment-là, un acteur extrêmement important, un instrument de musique tout à fait capital, parce qu'il arrive à maturité technique et il permet de faire énormément de choses qui n'étaient pas du tout possibles 20 ans auparavant. Ces manipulations sonores multiples qui ont commencé à être opérées dans les années 50, fin des années 40, début des années 50, par, évidemment, Pierre Schaeffer avec la musique concrète et puis Stockhausen dès le milieu des années 50 en Allemagne. Tout ça, ça continue dans les années 60 et ça devient la règle à la fois chez les musiciens pop. Et là, en particulier 66-67, ce sont des disques pop extrêmement importants. Je pense en particulier à Pet Sounds des Beach Boys en 66 et puis l'année suivante, 67, Sgt. Pepper's des Beatles, qui est en fait un album de studio où le travail de studio est extrêmement important. Les jazzmen vont entrer un petit peu plus tard dans ce type de logique, mais encore que tout ça est encore extrêmement mal connu parce que finalement c'est un aspect de l'histoire de la musique qui a quasiment été laissé de côté à la fois par les historiens et aussi de manière beaucoup plus incompréhensible d'ailleurs par les musicologues. Donc là il y aurait beaucoup d'études à faire en tout cas sur ces expériences de studio, et je pense pas me tromper quand même en disant que chez les musiciens de la génération Free il y en a quand même beaucoup qui se font à ce moment-là. Et ça, je crois que c'est un moment, un élément à verser au débat de ce processus qui se met en œuvre à ce moment-là. Donc je m'arrêterai là peut-être pour conclure rapidement, simplement pour dire que ce milieu, ce moment, ce mi-temps des années 60 est un moment extrêmement intéressant pour le jazz, parce qu'effectivement, on a une musique qui n'est plus une musique populaire. Je veux dire, elle a cessé de l'être en 63, il y a vraiment une chute très brutale du public, donc une musique qui n'est plus une musique populaire, mais qui s'est installée durablement dans le paysage, dont la question de la légitimation ne se pose plus, ou en tout cas plus trop, plus de façon aussi aiguë, et qui finalement, à partir de ce moment-là, part vers d'autres questionnements, à la fois en liaison avec l'évolution du contexte sociopolitique américain, bon, évidemment avec le mouvement pour les droits civiques et sa radicalisation, le contexte sociopolitique français, je veux dire que les acteurs de la critique de jazz dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir de 66, tous les critiques de jazz, de Jazzot et Jazz Magazine, seront pratiquement tous engagés dans le mouvement de mai 68, deux ans plus tard, et y engageront d'ailleurs les revues de jazz. Autre questionnement également en liaison avec l'évolution du jazz proprement américain, et puis l'évolution également du jazz français, et en particulier cette émancipation vis-à-vis du modèle américain, qui est une réalité dès cette deuxième moitié des années 60. Donc voilà, nouveaux questionnements, nouveaux débats, nouvelle voie esthétique. Il est clair qu'on entre effectivement à partir de ce moment-là dans une nouvelle époque. Je vous remercie.